Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Virginia Crespo.
Bonjour. Canal Académie a le grand plaisir de recevoir devant ses micros aujourd'hui pour cette émission Au fil des pages, Olivier Abel. Olivier Abel, bonjour.
Oui, bonjour.
Olivier Abel, vous enseignez la philosophie à la faculté protestante de Paris et vous avez notamment publié ces dernières années des ouvrages sur John Milton et Pierre Bayle. Au mois d'avril va sortir votre prochain ouvrage sur Calvin, qui s'intitule tout simplement Calvin, va être édité, je crois, fin avril, c'est bien ça?
Oui, c'est cela, exactement.
À proximité, c'est oui. Fin avril.
Fin avril. Mmh.
Fin avril. Alors, il s'agit d'un livre intitulé donc Calvin, à l'occasion du jubilé. Calvin, vous allez nous dire tout cela. Et c'est donc édité aux éditions Pygmalion Chemin d'éternité. C'est une collection dirigée par Olivier Germain Thomas. Alors justement, votre note d'intention, Olivier Abel, si j'avais à en tenir informé les auditeurs de Canal Académie, je vous lirais et dirais donc Jean Calvin est une des principales figures de l'histoire religieuse. Né à Noyon, dans l'Oise, en 1509, il mourut à Genève en 1564. Après des études de droit, ce jeune humaniste protégé par Marguerite de Navarre et acquis aux idées de Luther, tenta de réformer l'Église catholique de l'intérieur. À 25 ans, il quitte l'Église, s'exile, publie en 1536 son Institution de la religion chrétienne dédiée au roi de France et où il cherche à délivrer ses lecteurs de tout souci de soi. Après divers séjours à Bâle, Ferrare, Strasbourg, il est appelé par les Genevois pour conduire la réformation dans leur ville. C'est alors qu'il prend la tête d'un vaste mouvement qui changea la face de l'Europe, dites-vous, avec un génie politique souvent contesté, mais sans lequel la réforme aurait probablement été écrasée. Prédicateur, écrivez-vous, Olivier Abel, remarquable écrivain, un des premiers en langue française. Calvin laisse une œuvre où le nouveau rapport avec la Bible, au sujet émancipé, à l'Église et l'État, au monde à découvrir, nous parle encore 5 siècles après sa naissance. Sa vie est une aventure passionnante par ses amitiés dont vous nous parlerez aujourd'hui, son mariage, sa verve ironique, son inlassable énergie, d'où cet effort pour raconter sa vie à nouveau frais. Olivier Abel, vous n'allez pas souvent dans le sens du chorus. Pourquoi avoir souhaité ajouter votre voix, votre réflexion au moment de cette commémoration, de ce jubilé de 500 ans? Pourquoi l'édition de ce livre en ce moment? Quelle a été votre intention principale et essentielle?
Oui, en fait, c'est un livre qui tombe en ce moment, ce 500e anniversaire de la naissance de Calvin, mais qui m'a été commandé il y a 7 ans.
7 ans?
Il y a 7 ans. Donc j'aurais
une
dû
maturation
le...
de 7 ans.
Oui, en fait, ça n'avait aucun rapport initialement. Donc c'est Olivier Germain Thomas, à la suite d'une émission sur France Culture, où on parlait d'autres choses, de philosophie, de spiritualité. Il m'a dit, ah mais vous avez dit quelque chose sur Calvin qui m'intéresse beaucoup, faites-moi un Calvin. J'avais dit non, je ne suis pas théologien, je ne suis pas historien, je n'ai pas les compétences. Et il a insisté et finalement, bon, ben, je me suis mis au travail, vous voyez, lentement, ça a maturé, il me l'a redemandé. Et alors, à cette occasion, finalement, ça a un sens que ça tombe au moment du 500e anniversaire. D'abord, un sens par rapport à Calvin, parce que Calvin lui-même, je pense, c'est une occasion pour redécouvrir son importance. Je ne dis pas forcément pour multiplier ses hagiographies. Le but, ce n'est pas de prendre la défense de Calvin, mais déjà, rien que ce point de départ, l'idée qu'il faudrait prendre la défense de Calvin, c'est que quand même, Calvin a une image très, très négative et que tous ceux qui l'ont travaillé, je pense, quelles que soient leurs intentions, ont dû revisiter un certain nombre des images qu'ils avaient de sa pensée.
Finalement célèbre, mais assez peu connu.
Ah oui, il est très peu connu. Il est très méconnu, je dirais même qu'il est refoulé. Il est peut-être l'auteur le plus refoulé de la modernité. Il est peut-être, on pourrait sans exagération dire qu'il est, sinon le père, un des pères de la modernité, et en même temps il est peut-être l'auteur le plus maudit de la modernité. C'est-à-dire que plus que Rousseau, plus que Descartes ou Spinoza, c'est un des auteurs qui a été peu à peu refoulé et dont on a oublié même le refoulement. C'est-à-dire qu'il y a des tas de livres qui ont été brûlés, qui ont été mis à l'index, qui ont été pourchassés, c'était sur l'ensemble du territoire de la France notamment. Et ceux-là, on les désigne, eh bien, parmi eux, celui qui a été le plus brûlé, le plus interdit, c'est l'institution de la religion chrétienne. Et on ne le sait même pas, parce qu'on a même, on peut dire, refoulé le refoulement lui-même. Mais sans doute, il a fait trop peur. Trop peur. Il a été trop loin. Je pense que même les protestants n'ont pas mesuré, n'ont pas pris au sérieux sans doute l'ampleur de ce qu'était l'intention de Calvin. Et alors peut-être ça a un sens aussi, un demi-millénaire après sa naissance, que je mettrai en lien avec la crise de la modernité tout entière, finalement de la civilisation issue de cette Europe moderne. Il y a un sentiment profond de crise. Et ce qui m'a semblé utile, intéressant, passionnant philosophiquement, c'est d'aller mesurer les résultats, je dirais, de ces intentions superbes que l'on trouve, je dirais, presque telles quelles chez Calvin. Vraiment, l'autonomie, la liberté, hein. Il y a quand même quelque chose de très... Mais pas seulement cela, il y a aussi un effort immense vers la rationalité. On peut dire que Calvin prépare le chemin de Descartes et de Kant. Enfin, de plein d'autres choses. En philosophie politique, on pourra en parler, de Hobbes et d'autres. Et donc, Calvin est très important. Et je dirais, même ceux qui le défendent comme un homme d'église, comme un petit théologien, alors qu'il est beaucoup plus que cela.
Et vous, le philosophe, donc, quelle idée de départ aviez-vous avant ce compagnonnage de cette année par rapport à Calvin? Et qu'est-ce qui a changé chez vous par rapport à ce travail?
D'abord, dans le calvinisme, Calvin est vraiment l'image de la ligne la plus dure du monde protestant, la plus sévère, la plus rigoureuse sur le plan de l'orthodoxie, à proprement parler. Orthodoxie du rapport au texte biblique, du rapport à Dieu, du rapport à la grâce, de la prédestination, enfin un certain nombre de thèmes très rigoureux qui ont fait couler beaucoup d'encre et je dirais aussi beaucoup de salive dans le monde protestant. D'abord, il y a eu des débats entre calvinistes énormes autour de la prédestination, autour de tous ces sujets-là. Mais finalement, voilà, c'est resté une sorte de débat interne étriqué.
Alors que la dimension de Calvin doit dépasser ce cadre protestant.
Oui, Calvin est un auteur qui lui-même ne se pensait pas, en tout cas pas comme calviniste, même pas comme protestant. Jusque très tard dans sa vie, il pensait, avec tous ses amis humanistes de son temps, ouvrir la voie à la Renaissance évangélique, finalement, accomplir, compléter la Renaissance sur le plan de l'Évangile, finalement, sur le plan de ce qui était essentiel, qui était le retour à la Bible et, je dirais, à un des rapports, on pourrait dire, renouvelés de l'Église et de l'État. Finalement, c'était une époque de très grande angoisse, une époque presque de peur apocalyptique, de sentiments d'urgence, de sentiments de... Et Calvin arrive là-dedans. Après l'institution de la religion chrétienne, il a 25 ans quand il écrit ce livre, il arrive là-dedans dans le sentiment que non, voilà, on va se réinstaller dans un monde durable. Il commente tous les livres bibliques, mais il ne commente pas l'Apocalypse, par exemple. Il ne s'intéresse pas. Il a le sentiment de voilà, institution de la religion chrétienne. Il faut quand même oser un titre pareil, quand même. Hein. Et donc, on recommence, on s'institue durablement pour la durée, avec un sentiment de tranquillité. Il y a un sens, quand on le lit, on éprouve une tranquillité, une confiance dans le monde, une confiance dans la vie, une confiance en soi, de la pensée, qui sont absolument impressionnants et qui sont justement, on le sent bien, le ton de la modernité qui commence. Et je crois que lui, il pensait avec Marguerite de Navarre, qui est la sœur de François Ier, il pensait gagner le cœur du roi, et d'ailleurs, il en était assez proche à bien des moments, et que finalement, si François Ier avait, au moment de l'affaire des placards, n'avait pas basculé lui-même dans la peur, parce que François Ier a eu très peur, il a lui-même mené toute une procession à travers Paris pour essayer de colmater les brèches, le sentiment que quand même il y a eu une unité du corps politique, qui est en même temps une unité de l'Église, et dans le corps du Seigneur, et donc de l'Eucharistie, que quelque part il ne fallait pas toucher à ça, qui était contesté par protestation luthérienne, il faut le dire, hein, donc contre la messe comme sacrifice. Et donc, si François Ier avait gardé, si je peux dire, Calvin auprès de lui, Calvin aurait pu devenir une sorte de ministre, une sorte de conseiller de François Ier, mais la face de l'Europe en aurait été changée. Évidemment, et l'histoire de la France complètement. La France aurait été une grande puissance maritime. Toute l'histoire aurait été de la modernité aurait été différente. C'était complètement possible. On peut dire, même quand Calvin s'installe à Genève, pour lui, c'est encore provisoire. Il ne pense pas qu'il va y rester, peu à peu que tout va se durcir, que les orages vont s'accumuler autour de cette petite ville-refuge coincée entre les empires et l'Italie, qui reste quand même papiste, et que peu à peu, tout va se refermer et qu'à la fin, ça va se terminer dans des guerres de religion. Il ne cesse de combattre ça. Non, non, ne vous révoltez pas, non, non. Mais voilà, l'histoire est en marche.
L'histoire est en marche et l'une des étiquettes que l'on colle facilement à Calvin est celle de l'homme de pouvoir. Qu'en pensez-vous, Olivier Abel ?
C'est-à-dire qu'en fait, lui-même, comme tempérament, c'est un humaniste, un lettré, timide, qui, j'imagine, frileux, avec sa robe de chambre. Il aurait voulu tout le temps retourner à ses chères études, à ses lettres. Hein, son premier travail, c'est un commentaire du Déclémentier de Sénèque. Et en fait, sa seule compétence, c'est une compétence d'humaniste, de connaisseur du grec, un très bon latiniste, excellent latiniste, connaisseur du grec et traducteur et commentateur. Voilà, c'est ça qui... Et puis... Homme de pouvoir, oui, parce qu'il a été en quelque sorte appelé, il se raconte lui-même un peu comme Jonas, obligé de revenir prendre des responsabilités qu'il a voulu fuir et à plusieurs reprises rattrapé par des amis qui disent non, il n'y a que toi qui peux...
C'est son ami Farel qui le rattrape par la manche.
Et tant d'autres, mais à Genève c'est Bucer, à chaque fois il est appelé à des responsabilités, alors ecclésiales, mais finalement c'est dans une époque comme celle-là, les responsabilités ecclésiales sont des responsabilités politiques, surtout que Calvin a un sens très très aigu qu'il y a un seul vrai seigneur, un seul vrai pouvoir, c'est Dieu. Et en gros, son intervention dans la politique va être une intervention pour restituer la hiérarchie des puissances et que les rois qui ont tout à fait mandat pour être les rois ou les républiques, les princes, les magistrats, qui ont tout mandat pour exercer leur mandat dans les limites imparties par Saint Paul dans les épîtres de Saint Paul, sont eux-mêmes soumis justement à un pouvoir supérieur qui est le pouvoir de Dieu et que donc il y a des choses sur lesquelles ils n'ont pas de pouvoir. Et Calvin est là pour rappeler cette limite au pouvoir politique.
Nous, ça nous est difficile d'envisager ces mentalités, cette situation entre le politique, le religieux, nous, enfants de 1905, la séparation de l'Église et de l'État. En quelques mots, pourriez-vous nous décrire cette répartition du pouvoir entre le politique et le religieux à l'époque de Calvin, lorsqu'il retourne pour la deuxième fois à Genève, réclamer...
Oui, donc Calvin cherche un endroit pour continuer son travail de lettré, d'écrivain, on va dire. Il a écrit l'Institution de la religion chrétienne, il était à Bâle, il est parti à Ferrare, en Italie. Il aurait pu finalement terminer sa vie en Italie. Certains disent même qu'il a été jusqu'à Venise, etc. Il hésite. Et puis, il passe par Genève, incognito, et là, il est dévoilé. Il est dévoilé par un ami. On pourra y revenir, un ami avec qui il était depuis 3 ans, qui est un chanoine catholique, un jeune théologien, on va dire, prêtre catholique, avec qui il fait tout cela, avec qui il fait toute cette démarche de quête, plus que d'enquête. Bon. Et il est dévoilé par cet ami, il faudra revenir. Pourquoi est-ce que cet ami dit « Ah tiens, j'ai Calvin avec moi, c'est mon ami, vous voyez que vous voyez là tout timide ». En fait, c'est Calvin, c'est lui qui a écrit l'Institution de la religion chrétienne, qui était un livre tout de suite très connu, qui a tout de suite été très, très connu, qui était un livre dans la première édition et sous un pseudonyme en plus. Hein, bon. Et à ce moment-là, il est retenu à Genève par quelqu'un qui a essayé d'y asseoir la réforme. La réforme était... Ils avaient chassé leur évêque. Et puis, ça se passe pas très bien, il y a beaucoup de disputes, et finalement, ils sont chassés. Ils sont chassés parce que, justement, il y a un conflit entre le pouvoir des notables de Genève et le pouvoir des pasteurs qui arrivent. On peut déjà appeler des pasteurs, c'est pas encore vraiment des pasteurs, ça n'existe pas, tout ça est en train de se créer. Hein. Il faut imaginer que c'est une période de grands troubles. Hein. Bon. Et donc, il s'en va à Bâle, là, il est appelé à Strasbourg, il va rester plusieurs années à Strasbourg, ça va être une période très heureuse. Il va rédiger une nouvelle version de l'institution beaucoup plus accomplie, beaucoup plus large. Et c'est de là que l'évêque de Carpentras, je crois, ou d'Apt, j'oublie, qui s'appelle Sadolé, envoie une épître aux Genevois en disant, écoutez, il avait été, je crois, évêque à Genève auparavant, très belle épître, en disant, mais écoutez, les Genevois, vous avez l'air en plein trouble, pensez vraiment à l'essentiel, pensez à ce qui est important. L'important, c'est le souci de soi. L'important, c'est ayez le souci de vos âmes, ayez le souci de vous-même. Et donc, rentrer dans le giron de l'Église qui, elle, va vous aider. Et la réponse de Calvin, l'épître à Sadolé, c'est une réplique à cette... dit, mais non, mais attendez, il a tout à fait raison. Sentez les choses qui sont importantes, mais au-dessus de ce souci de soi, il y a quelque chose de plus important, c'est la confiance en Dieu. Parce que finalement, soyez insouciant de vous-même. C'est ça son message, c'est vous ne pouvez pas vous soucier de vous-même, remettez-vous à Dieu de ce souci, et Dieu se souciera de vous. C'est ça qui est prioritaire. Cette épître est d'ailleurs applaudie par Luther, qui la trouve magnifique, et c'est elle qui fait rebasculer complètement Genève en disant « mais il faut que Calvin vienne, c'est quand même lui qui nous parle en ce moment voilà. ». Donc il arrive à Genève, en effet, en 1541, tout jeune, et on lui fait un tapis rouge, là, on lui demande de réformer la ville. Alors, vous me posiez la question des liens entre le politique et le religieux.
Oui, parce qu'il faut rappeler qu'à l'arrivée de Calvin à Genève, donc Genève s'était déjà autoproclamée république autonome. Vous avez dit tout à l'heure en parlant de Genève, vous parliez des Genevois. Les habitants de Genève sont importants. Genève, ce sont les Genevois. Genève s'était autoproclamée république autonome et avait adopté la réforme par décision du Conseil général. Par l'Assemblée des électeurs réunis le 21 mai 1536. Donc c'est un statut particulier, ce sont des gens qui se sont mis en mouvement.
C'est ça, alors donc ça c'est déjà une institution qui existait tout au long du Moyen-Âge, de la fin du Moyen-Âge, toutes ces petites républiques qu'on trouve dans l'Italie du Nord, que l'on trouve tout le long de ce qui va devenir la Confédération helvétique, c'est des petites villes indépendantes, et aussi le long des grands fleuves du Strasbourg, il y a des villes indépendantes comme ça, qui ont des constitutions quasi-républicaines, en fait, relativement aristocratiques, parce qu'en fait c'est des conseils d'aristocrates, c'est les hommes, chefs de famille, notables de la ville, etc., qui forment ces conseils républicains qu'on appelle la seigneurie de Genève. Bon, ils sont plutôt une sorte de co-seigneurie, bon, de fait républicaine, mais pas dans le sens actuel du terme. Vous voyez, c'est dans un sens un peu. Et ce qu'il demande à Calvin, c'est bien sûr de réformer l'Église. Et donc, il va écrire des ordonnances ecclésiastiques, une sorte de simplification de la vie de l'Église replacée sur ses fondamentaux. Mais on va lui demander aussi, parce que lui, Calvin, il ne faut pas oublier que Calvin n'est pas un théologien. Calvin est un juriste de formation. Il n'a fait que des études de droit. Et donc, on va lui demander, comme c'est un métèque, comme on demandait dans la Grèce d'autrefois à des étrangers, de rédiger la constitution, une bonne constitution pour la ville. On va lui demander de rédiger le droit, le code pénal, le code civil de la ville. Et là, il fait un travail de juriste très intéressant. Alors, on va dire que c'est la théocratie, puisque c'est le même homme, c'est la même pensée qui légifère le théologique et le politique. Mais en fait, il faut bien sentir que ce sont deux commandes complètement dissociées. Et c'est, je dirais, un homme divisé en deux. Il y a son côté homme d'église, mais aussi son côté juriste qui apparaît là. Et ce côté juriste, il apparaît très fort dans, je vous prends juste un exemple, le mariage, quand il rencontre la question du mariage. Le mariage, dit-il, c'est une affaire à remettre aux officiers civils. C'est pas une affaire des pasteurs, c'est pas une affaire de l'Église. Ça, c'est une révolution, c'est une idée laïque. C'est l'idée que il faut faire la part entre ce qui relève des pasteurs, ce qui relève de l'Église, et ce qui relève de l'État, c'est-à-dire de la cité, de la ville.
Quelles sont les innovations qu'il va apporter par rapport à cette vie politique qu'il va créer, qu'il va instituer pour cette ville de Genève? Quelles sont ces grandes innovations? Quelles sont les nouveautés que Calvin va pouvoir apporter à la ville de Genève? Comment établit-il ce pouvoir politique? Et quelle différenciation fait-il justement entre le politique et le religieux? Vous venez de nous donner un exemple par rapport au mariage. Pourriez-vous continuer?
D'abord, c'est très important pour lui de voir qu'il y a une différence de principe entre ce qu'il appelle les lois judiciales, c'est-à-dire les lois politiques, et les lois cérémoniales, c'est-à-dire les lois religieuses, les lois de l'Église. Il le fait beaucoup plus qu'aucun auteur de son époque. Je veux dire, en son temps, il peut être peut-être un petit peu comparé à Machiavel. Machiavel n'avait cessé de se battre pour que le spirituel, c'est-à-dire le pouvoir du pape, n'interfère pas trop avec le pouvoir politique, le pouvoir temporel politique dans la ville de Florence. Eh bien, on peut dire que là, Calvin fait la même chose à Genève, en séparant les deux registres. Donc, vous voyez, il y a quelque chose. 1905 est autant l'aboutissement de l'effort fait par Calvin que fait par Machiavel. C'est-à-dire, on ne mesure pas à quel point, et même peut-être davantage, parce que Machiavel a une conception très négative du politique. Le politique, en gros, il est méchant, il est violent, il est rusé, il est menteur, il est. Bon, une conception assez cynique, on va dire. Alors que Calvin a une conception, un sens très positif de l'institution en tant que telle et du magistrat en tant que tel. Et alors il dit, liberté est laissée à toutes les nations de se donner les lois judiciales, les lois politiques qu'elles jugent utiles pour elles en fonction de leur histoire, de leurs mœurs, de leur. Même du climat. Il y a même chez lui, avant Montesquieu, une théorie des climats. C'est-à-dire qu'il y a des régions du monde dans lesquelles il y a des climats différents, des climats sociaux, des climats géographiques, et dans lesquelles les lois vont être forcément un peu différentes. Et donc, il ne faut surtout pas imposer à tous les pays la loi de Moïse, la loi religieuse, une loi qui serait une sorte de loi venue tomber du ciel. Non, pas du tout. La loi de Dieu, elle est toute simple. C'est il faut aimer son prochain comme soi-même et aimer Dieu de tout son cœur. C'est les deux commandements, c'est tout. Et ça, ces deux commandements, il faut les interpréter.
Après, tout peut être
tout
adapté,
est libre. Tout est libre.
Interprété
tout
et
est
adapté.
Libre. Tout est libre ensuite. On a du mal à mesurer que c'est ça le cœur du message de Calvin, parce que ce n'est pas du tout l'image que l'on en a. Mais finalement, les grands arguments qu'on trouve dans l'histoire, toute l'histoire de la philosophie politique après Calvin, c'est-à-dire chez Hobbes, chez Spinoza, chez Rousseau, c'est des arguments qui viennent d'abord de Calvin. Calvin insiste énormément sur cette séparation. Et alors, les bagarres politiques concrètes qu'il a eues à Genève sont des bagarres pour, par exemple, que ce ne soit pas le conseil. Si les pasteurs ont décidé de ne pas recevoir à la scène, c'est-à-dire à l'Eucharistie, quelqu'un qui aurait fait des bêtises, je ne sais pas moi, par exemple, donc quelqu'un qui met une image obscène, qui dessine une image obscène sur une obscénité sur la cheminée de la compagnie des pasteurs, on va le refuser à la Sainte Seine. Et comme c'est un grand notable de Genève, le conseil de Genève, à l'époque en opposition avec les pasteurs et avec Calvin, essaye d'imposer que ce notable puisse quand même participer à la scène, c'est-à-dire à l'Eucharistie, au culte le dimanche. Et là, Calvin proteste en disant « Non, ça c'est une affaire de l'Église, c'est pas une affaire de l'État, ne mélangez pas tout. Hein. » Voilà, ça c'est typique des combats concrets que Calvin a dû conduire.
Et le consistoire, alors, c'est une création, ça correspond à quoi le consistoire ?
Le consistoire, c'est l'assemblée de tous les pasteurs qui appartiennent à la même Église, c'est-à-dire finalement à la même ville, parce que là quand même, c'est une société donnée, limitée, c'est un petit territoire, c'est le territoire de Genève. Il n'y a aucun pouvoir au-delà de ce territoire.
Et le rôle du consistoire par rapport au conseil ? Il y a le petit conseil, le grand conseil ?
Alors le conseil, c'est politique, et le consistoire, c'est ecclésiastique. Ce sont deux choses complètement différentes. C'est vraiment une séparation. Alors bien sûr, ce qui se passe, c'est que Genève est dans un moment d'effervescence presque révolutionnaire. Ça, il faut bien sentir que nous avons eu aussi l'image du calvinisme après Max Weber. C'est le capitalisme, c'est l'individualisme, c'est la bourgeoisie. Bien sûr, il y a une dimension bourgeoise qui se développe et qui va être valorisée par une certaine éthique du calvinisme. Mais il y a aussi une autre histoire qui est l'histoire des révolutions. Il y a la révolution anglaise qui prépare la révolution française. Tous les grands auteurs de la Milton va être cité par Mirabeau, etc. Et elle est elle-même, d'ailleurs, une révolution sur les idées de Calvin, et elle-même, elle est dans le prolongement de ce qui s'est passé à Genève, qui est une véritable révolution. Il faut sentir que Genève a été elle-même une ville en insurrection, qui s'est redotée d'une nouvelle constitution. Donc c'est vraiment un moment à la fois de trouble et de refondation, et en même temps qu'elle a attiré. Elle a attiré des exilés de tous les pays d'Europe, d'Écosse, de Pologne, de Hongrie, de France, bien sûr, mais aussi d'Espagne, du Portugal, d'Allemagne, bien sûr, des Pays-Bas, bien sûr. Et donc, tous ces militants vont doubler, tripler la population de Genève, qui va devenir la ville-refuge, une cité de militants. Et je pense que ces militants n'étaient pas tous des rigolos, c'était pas tous des gens très, très faciles de caractère. Et donc, bien sûr, c'était certainement une ville très enthousiaste, mais aussi très dure.
Un succès, cette ville, Genève, ville-refuge.
C'est un immense succès. Et rien que la prédication de Calvin, il faut imaginer qu'il y a des princes qui sont à l'époque des grands princes catholiques qui viennent incognito, passent les frontières pour venir suivre les sermons de Calvin à Genève. Et donc, Calvin est vraiment un prédicateur qu'on vient de loin pour l'écouter. On n'a même pas le droit de retenir des chaises, parce qu'il y a tellement de monde qu'on ne peut pas retenir des chaises pour la prédication de Calvin. Et donc, c'est un succès comme un grand théâtre. Ces jours-ci, j'ai écouté l'acteur Benigni au Grand Rex déclamer Dante. C'était tout à fait impressionnant de voir toute la foule des spectateurs là, qui étaient là en train d'essayer de comprendre, alors qu'il parlait la moitié du temps en italien, déclamer Dante en italien, mais avec une sorte de passion pour... c'est quoi Dante ? C'est quand même de la théologie du Moyen-Âge. Hein. Bon, eh bien, voilà, je crois qu'il faut comprendre que Calvin, c'était une sorte de grand acteur. Et qu'on venait de très loin pour suivre cette espèce de grand théâtre qui était en train de bouleverser le monde.
Et pourtant, on ne voit pas Calvin dans le rôle de Benigni, c'est-à-dire avec cette faconde.
Mais imaginez qu'ils ont finalement, la ville de Genève a pris deux secrétaires, on pourrait dire, qui en permanence prenaient en sténo les sermons de Calvin.
3000 à peu près.
Lui, il n'avait pas le temps de les écrire, il n'écrivait rien. Il dictait même pas. On prenait en note des choses qu'il disait parce que tout le monde trouvait ça trop important. Et donc. Voilà, ces sermons qui ont été d'ailleurs vendus au poids du papier par la ville de Genève en 1820-1830.
Donc un personnage qui pouvait se passionner, parce que ce n'est pas du tout l'image qu'on en a.
Mais c'est incroyable, il suffit d'ouvrir le premier de ces sermons, on voit d'abord cette verve, cette langue française, il est le premier. Vous lisez Rabelais, vous avez du mal à lire Rabelais. Vous lisez Calvin, il sait déjà le français moderne parce que c'est lui, avec ses écrits, il a écrit, il y a eu des années où il publiait 10, 15 livres, sermons, petits livres qui étaient aussitôt emmenés par les colporteurs dans toute la France. Et donc, il a répondu, c'est la langue de Calvin qui est devenue le français moderne, plus que celle de Ronsard. Il a joué un rôle immense dans la constitution de cette langue qu'est le français. Et ça, on ne mesure pas là encore. Et c'est donc cette invention de langue, cette verdeur, en même temps, c'est très imagé, c'est tout le temps très drôle. Il est très, très drôle. Il est plein d'ironie, plein de... et en même temps, plein de sensibilité. Je veux dire, c'est pas du tout toujours... On imagine toujours, si c'est ironique, que c'est une ironie mordante, méchante. Non, mais pas du tout. Calvin, il faut le sentir, jusque très tardivement, est d'abord un homme heureux. Et ce qu'il délivre, c'est un message heureux. Il y a une joie. Et les problèmes de Genève ont été des problèmes dus justement à trop de joie, à trop d'enthousiasme, à trop d'amour. Il faut s'aimer, il faut être heureux, il faut partager ses joies. Ils sont trop enthousiastes. C'est comme la Révolution, il y a un côté comme cela.
Il faut vraiment procéder à cette réhabilitation dans le bon sens de Calvin.
Ce n'est pas forcément réhabilitation, c'est au sens mesurer l'importance.
L'importance, il s'est passé mieux là. Connaître sa vie, son œuvre.
Calvin, c'est un nom individuel d'une aventure collective. C'est un collectif, il n'est pas seul. Il attire... tous les enfants de Guillaume Budé deviennent des pasteurs à Genève. Faites-vous voir, il a attiré tout le monde. Et ils sont devenus ses amis, ses proches, et lui qui l'a envoyé ensuite comme pasteur, comme ambassadeur à droite à gauche, etc.
Donc, Calvin, homme de communication. Homme de communication et homme aussi d'amitié.
Homme d'amitié, oui, ce serait important en effet de le dire. On vient de parler un peu du politique, c'est vrai que moi je pense que Calvin aurait, pour conclure sur ce chapitre-là, aurait sa place au programme de Sciences Po, surtout en France. C'est quand même un grand auteur français, un penseur latin aussi. C'est pas un anglo-saxon, si vous voulez, c'est vraiment un auteur latin. Et il aurait sa place autant que Machiavel, si vous voulez. C'est vraiment un auteur très important. Hobbes, tout ce qui suit est en débat avec Calvin, d'abord. C'est lui qui a bouleversé l'Europe politique de son temps. Alors maintenant, un homme d'amitié, oui. Je pense que la vie de Calvin pourrait être racontée à partir de ses amitiés. De ses amitiés successives, d'abord du nombre de ses amitiés. C'est un grand ami, il est capable de se mettre en quatre pour recevoir quelqu'un. Il était doté d'ailleurs, je crois, par la ville de Genève, chaque année d'un tonneau de vin, environ 1000 litres de vin. Il ne les buvait pas tous. Et puis, quand il y a quelqu'un qui, Jacques Dufalès, je pourrais prendre des correspondances que j'ai lues, un ami qui l'avait rencontré il y a longtemps, qui finalement décide de faire le pas, de ni se révolter contre l'ordre royal en France, ni être martyr, parce qu'il y en avait beaucoup qui simplement passaient sur le bûcher, hein, il y a la chambre ardente, envoyés les uns après les autres, y compris des grands nobles, des duchesses, des conseillers au Parlement, etc., Anne Dubourg et tant d'autres. Bon, donc, quand quelqu'un veut vivre ses idées, on va dire luthérien, tout ça, luthérien, calviniste, c'était à l'époque des épithètes injurieuses. Ils étaient simplement des chrétiens pour eux. Ils ne pensaient pas que ça allait faire des églises luthériennes, calvinistes, tout ça. Bon. Donc, quand quelqu'un comme ça faisait le pas, eh bien, Calvin essayait de l'accueillir à Genève. Ah, je t'ai trouvé une maison avec un petit jardin, tu pourras être là avec ta femme et tes deux petits-enfants, c'est bien. Tu vois. Il les accueille, il les cherche. Et alors, il y a des correspondances avec des humanistes, avec d'autres pasteurs, justement, Farel, Viré, il y a 300, 400 lettres, rien que pour Viré, par exemple. Donc, et puis des femmes, beaucoup de femmes.
Oui, vous avez parlé de Marguerite de Navarre, de sa fille, Jeanne d'Albret.
Jeanne d'Albret, il ne cesse de s'écrire, hein, ils s'écrivent énormément. Il est une sorte de conseiller spirituel, mais aussi d'amis. Parfois, il reçoit des remontrances de leur part. Marguerite de Navarre n'est pas d'accord avec lui. Donc, c'est quand même la sœur du roi, hein, c'est pas n'importe qui. Bon, ben, elle protège des gens que Calvin voudrait, dont il lui dit méfie-toi, méfiez-vous, madame, de ces gens-là, etc. Mais non, mais je sais ce que je fais. Bon, donc, c'est très. Bon. Et puis pareil avec René de Ferrare, la fille de Louis XII, qui a épousé le duc d'Est, René de Ferrare, qui est elle-même la belle-mère de François de Guise, qui va être le chef du parti catholique. Bon, mais ils s'écrivent beaucoup, ils sont amis, ils se racontent leur malheur. Et là aussi, René de Ferrare dit, vraiment, vous m'avez envoyé des pasteurs dans mon château de Montargis, là, au moment des guerres de religion, qui est une sorte de désastre pour Calvin. Et là, vous m'avez envoyé des pasteurs, mais ils sont méchants, ils se jugent les uns les autres, ils me jugent, ils jugent mon gendre François de Guise, ils pensent qu'il est damné. Mais comment est-ce qu'ils peuvent dire des choses pareilles? Et Calvin dit, mais vous savez, c'est des passions humaines. Voilà, on avait des idées généreuses, et puis ça, en gros, c'est comme ça, c'est ça le sens de cette lettre magnifique. Il lui dit, mais voilà, on avait compté sans les passions humaines. Sans les hommes, des meilleures choses de l'évangile, ils arrivent à faire des choses terribles, terribles, d'inhumanité. Ça, c'est très sensible. Alors, ces correspondances-là, je les trouve absolument magnifiques. Et puis, il y a des grands amis, des grandes amitiés intellectuelles aussi qui tournent mal. Alors, Castellan, par exemple. Et puis, peut-être d'abord, on pourrait parler de Louis du Tillet, ce jeune. Calvin avait rédigé le discours d'ouverture de leur rentrée en 1533. Donc, vous voyez, il est tout jeune, il a 22 ans, 23 ans. Du recteur de l'université de la Sorbonne. En tout cas, on a un manuscrit de ce texte donc, dans les papiers de Calvin. Donc, visiblement, en tout cas, il a contribué à la rédaction de ce texte qui a été une sorte de choc. Et donc, tout de suite, ils ont été cherchés et Cobb s'est enfui à Bâle. Et Calvin, déguisé en habit de vigneron, a réussi à échapper au guet, à fuir Paris. Et il se réfugie chez ce garçon avec qui il passe un hiver dans lequel on a le sentiment qu'il est fermé dans la cure, là près d'Angoulême, dans une cure absolument incognito, bien sûr. Et on a le sentiment qu'ils refont le monde là. Et alors, ils sont tellement amis qu'après, ils vont, après l'affaire des placards, un an plus tard, ils vont fuir ensemble. À cheval, ils vont fuir Paris, ils vont fuir la France, détroussés par des bandits. Ils vont arriver à Strasbourg, puis Bâle. C'est là que Calvin va écrire son Institut sur la religion chrétienne. Et puis Ferrare, quand ils reviennent à Genève, c'est là qu'il commence à y avoir une dispute entre, visiblement, parce que je crois que Louis du Tillet pense que quelque part tout ça, c'était pour ramener tout ça au sein de l'Église. L'Église, c'était le monde. C'était le monde. Et je pense que Calvin a réalisé au moment où il quittait la France, au moment de l'affaire des placards, que quelque part, il partait, il quittait, il tournait une page. Et ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental dans la vie de Calvin. Luther a été chassé, Luther a été excommunié. On peut dire qu'il s'en fiche, il déchire la bulle papale, il se fiche d'être excommunié, il est toujours dedans, il ne se considère pas. Tandis que Calvin, c'est autre chose. Calvin, il vient après Luther. Maintenant, Luther a raison, il faut tourner la page. Et donc, si on va pas se laisser les uns après les autres, un par un, chasser de l'Église. On quitte l'Église résolument, c'est un acte, et on va reformer une nouvelle Église ailleurs. Et c'est ça que sans doute Louis du Tillet n'accepte pas. Donc il y a une dispute entre eux qui va couver, je pense, pendant quelques mois, peut-être un an et demi. Et puis finalement, il y a un clash entre eux. Et Louis lui dit, mais il y a des lettres très belles, Louis, mais est-ce que tu es sûr, Jean, que c'est Dieu qui t'appelle? Tu ne crois pas que c'est ta propre gloriole, que c'est toi-même qui veut... Et alors là, pour Calvin, c'est vraiment c'est ton ami. Alors il dit, mais tu as peut-être raison, je ne sais pas, moi. Et alors, il y a un doute. Et ce sont d'autres amis qui disent, mais non, mais regarde, quand tu parles, tu libères les gens, tu leur fais du bien. C'est pas toi, c'est pas pour toi, c'est pas toi-même, c'est d'autres qui t'appellent. La vocation, elle vient toujours d'ailleurs. Elle vient des autres, elle vient de Dieu, elle vient pas de toi-même. C'est pas toi-même qui t'auto-proclame, pas du tout, au contraire. Et alors c'est à ce moment-là que finalement Calvin accepte de devenir pasteur de l'église des réfugiés français de Strasbourg, alors que Louis du Tillet rentre en France et qu'il sera curé. Mais voilà, c'est une amitié rompue. Ça, c'est une des grandes tristesses. On sent que c'est un deuil profond pour Calvin, la perte de cette amitié. Il y en a d'autres. Il y a justement ce Jacques du Falaise dont je parlais tout à l'heure, qui est devenu l'ami de Bolsec, qui est un carme arrivé à Genève et qui a attaqué Calvin sur la prédestination. Et Calvin a essayé de s'expliquer. Et puis la dispute s'est envenimée. Et finalement, un très bon ami de Calvin a continué à protéger celui qui était son médecin, justement, qui était Bolsec. Et ça, ça a beaucoup chagriné Calvin. Donc il y a des amours blessés, on va dire. Je dis des amours parce qu'il y a un côté.
Passionné.
Il y a un côté affectif.
C'est très romantique. Très romantique. Aussi.
Très romantique. Et l'amitié, vous savez, c'est une époque où l'amitié est très importante. Il y a la Montaigne, il y a la Boétie. C'est une époque de grandes amitiés. L'amitié est quelque chose, je crois, de très valorisé à l'époque. En tout cas, dans la vie de Calvin, c'est très, très valable. Et avec Castellan, c'est pareil. Castellan, il avait été un jeune homme qu'il avait hébergé chez lui à Strasbourg, qu'il avait essayé de former, puis...
Qu'il avait fait venir ensuite à Genève.
À Genève, voilà.
Il avait donné un emploi.
Voilà. Et d'ailleurs, Castellan lui-même attendait de Calvin beaucoup. Il y avait une sorte d'affectivité entre eux, forte. Et d'ailleurs, donc, Castellan fait un commentaire biblique, et puis le soumet à Calvin. Et Calvin dit, non, écoute, vraiment, non, tu ne peux pas le publier comme ça. C'est mauvais, quoi. C'est pas bien. Et Castellan, pas du tout vexé, il dit, mais d'accord, mais alors, est-ce que tu pourrais m'aider? Est-ce que tu pourrais prendre le temps pour moi on se voit toutes les semaines, je te rapporte une partie, on le corrige ensemble. Et là, Calvin qui est débordé, il dit, écoute, je suis désolé, mais non, ça, je peux pas. Et alors là, Castellan est vraiment vexé et il a le sentiment que son ami le trahit. Et c'est le début de la rupture entre eux. Mais jusque très tard, on voit Calvin dire, ah, j'ai essayé de trouver un poste pour Castellan, j'ai le sentiment que ça va pas bien pour lui, etc. Alors qu'en fait, ils se sont déjà disputés publiquement beaucoup. Mais on voit les côtés disputes, mais on ne voit pas que par ailleurs, ils sont par exemple, obliger lui, Calvin et Bolsec, Calvin et Castellion, de venir devant le consistoire, devant la compagnie des pasteurs, présenter leurs excuses mutuellement. Ils sont appelés par les autres pasteurs à dire « Présentez vos excuses, demandez-vous pardon les uns aux autres, vous êtes des frères en Christ. » Et oui, bien sûr, ils le font de tout leur cœur. Et ça, c'est des choses qu'on ne mesure pas. Je pense qu'on ne peut comprendre les haines qui se sont accumulées, je dirais, dans le sillage de Calvin qu'en mesurant l'importance, je dirais, des passions et je dirais, de l'amitié qu'il y avait aussi.
Qu'est-ce qui vous a tenu à cœur, Olivier Abel, dans votre ouvrage qui va sortir fin avril aux éditions Chemin d'éternité, Pygmalion, et un ouvrage intitulé tout simplement Jean Calvin? Qu'est-ce qui vous a tenu à cœur de développer et de transmettre à vos contemporains par rapport à ce Calvin dont vous avez suivi pendant 7 années la vie, vous avez travaillé, réfléchi à l'œuvre. Quels sont les points essentiels par rapport au personnage qui vous paraissent essentiels à transmettre aujourd'hui à vos contemporains en 2009?
Alors, je dirais d'abord l'insouciance même, l'insouciance.
L'insouciance, Calvin. Calvin, oui. Vous n'allez pas trop fort, Olivier
Abel? Non, parce que le premier mot de Calvin, c'est la grâce. Donc, répondre à la grâce, c'est la gratitude. Éprouver de la gratitude. Le maître mot chez Calvin, c'est la gratitude. C'est la reconnaissance. Et donc, la reconnaissance me détourne de moi-même pour me rapporter dans le geste de la gratitude envers ceux envers qui j'ai de la reconnaissance. Il faut se reporter, confier le souci que j'ai pour avoir de moi-même, le confier à Dieu, et reporter le souci du coup sur les autres. Donc c'est ce double mouvement de confier à Dieu le souci de moi, et du coup le souci de le déporter sur les autres, avoir le souci des autres. Ça c'est vraiment un geste élément fondamental de toute la pensée de Calvin. Mais moi, ce que j'ai cherché à faire, là, vraiment, moi, je suis, là aussi, je ne suis pas théologien, je ne suis pas historien, je suis philosophe. Moi, ce qui est central pour moi, c'est toutes les ouvertures que je dirais presque à son insu. Il ouvre. C'est-à-dire, quelqu'un qui a lu tous les auteurs, justement, de la modernité philosophique, etc., quand il lit Calvin, il dit « Ah, mais c'était là !» On trouve ça sous cette figure, je dirais, la plus très simple. Je vais prendre juste un exemple. Le sentiment que le sujet n'est pas perpétuellement un petit enfant qu'il faut éduquer, qu'il faut soumettre à une pédagogie, qu'il faut faire grandir. Il dit, par exemple, on dit qu'il faut nourrir les fidèles de bon lait. Mais jusqu'à quand les nourrira-t-on de bon lait s'ils n'en viennent à supporter quelques viandes et vins? Quand même, il faut qu'ils grandissent les sujets. Donc, il faut sortir de la minorité, sortir de l'état d'enfance. Il nous faut être adulte un peu. Et je dirais, ça, ce geste de Calvin, de sortie de la minorité, mais c'est le geste des Lumières. C'est l'idée même des Lumières. C'est comme ça que Kant définit les Lumières, le projet des Lumières, le projet de la modernité, c'est sortir de la minorité, être un peu adulte. Et quand on pense à l'individu adulte, aujourd'hui, on pense à l'individu autonome, tellement autonome qu'il ne doit rien à personne. Alors que justement, le cœur, ce qui fait qu'on est adulte, c'est qu'on est capable de gratitude, capable de se retourner pour dire merci. C'est cela, chez Calvin. C'est ça qui fait la responsabilité. On est responsable parce qu'on répond de soi à quelque chose qui nous précède.
Et ça, c'est une idée essentielle qui a habité l'homme politique Calvin comme le religieux qu'il
était. Ah oui, le spirituel, ça touche tout. Ça a des conséquences politiques, ça a des conséquences ecclésiastiques, ça a des conséquences à tout point de vue, bien sûr. Ça touche morale, ça touche tous les registres.
Et par rapport à aujourd'hui, en 2009, où politique et religieux s'observent, n'ont pas toujours d'action en commun, là on assiste à quelque chose, comme vous le disiez tout à l'heure, de révolutionnaire pour l'époque, de nouveau.
Ce qu'on a oublié, c'est combien l'idée de contrat, l'idée de pacte, qui est au cœur de l'idéal démocratique de la modernité occidentale, vient de l'idée biblique de l'alliance. Et que, bien sûr, une alliance, une vieille alliance, a pu être brisée, a pu être rompue, mais c'est pour nouer une nouvelle alliance. Et donc, on a chez Calvin quelque chose comme un exil. On a même chez Calvin le prototype de ce qui va devenir une figure centrale de la modernité, c'est la possibilité de partir, d'aller ailleurs, d'aller recommencer ailleurs sa vie sur une nouvelle base, quelque chose comme cela, qui est essentiel pour penser toutes les colonies hein, aussi, avec tout ce que cela, ça peut avoir aussi de négatif. Mais c'est aussi les États-Unis d'Amérique, ils sont partis sur ce geste-là. Mais ce geste-là, ce que nous oublions, c'est l'autre partie du geste qui est on quitte, on rompt. Il y a des ruptures, mais parce qu'on va passer un nouveau pacte, un nouveau contrat, une nouvelle alliance avec des gens qui sont d'accord pour passer ce pacte. Ça, c'est le cœur de la philosophie politique nouvelle. C'est aussi le cœur de la conception de l'Église nouvelle. L'Église est une Église d'adultes libres qui passe un pacte nouveau, un nouveau frais. Et on a ça jusque dans le mariage. C'est-à-dire que Calvin, pratiquement, est l'inventeur du divorce. qu'il faut voir que, même de fait, c'est comme ça. Genève est une ville où arrivent des gens qui ont dû quitter leur femme qui a voulu rester catholique. C'est le marquis de Vico, par exemple. Sa femme est restée en Italie. Et bien, il arrive. Et bien, Calvin prononce son divorce. Il a donc pour lui la possibilité de se remarier. C'est une nouvelle alliance. C'est un nouveau pacte. Et donc, et pareil pour plein de nobles français, des femmes qui arrivent, qui sont mariées. Leur mari est resté catholique en France. Et bien, ces femmes vont pouvoir divorcer, se remarier, refaire leur vie. C'est une invention absolument extraordinaire. L'invention du divorce, c'est une invention moderne. C'est pas du tout ancien, c'est moderne. Et c'est une nouvelle figure du couple qui apparaît, le couple comme alliance, comme pacte. Et ça, on a ça chez Calvin. Et Calvin dit dans son commentaire de Deutéronome que c'est autant, la femme a autant de droits que l'homme à divorcer, à rompre le pacte, si c'est justement pour des raisons de ce genre. Et vous voyez, donc, il y a une idée d'égalité fondamentale qui apparaît là. Alors, je dis aujourd'hui, il me semble qu'aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est que cette idée d'alliance, c'est devenu l'idée du contrat social, après c'est devenu les petits contrats, finalement aujourd'hui c'est les petits contrats précaires, je veux dire, dans lesquels les démocraties occidentales sont en train, je dirais, d'enterrer définitivement la grande idée fondatrice de la modernité, et qui est l'idée du pacte, qui est l'idée justement de la... On ne peut se lier que parce qu'on peut se délier. On va sortir de l'esclavage, on va sortir des servitudes, on va sortir de l'état de perpétuelle enfance, de perpétuelle minorité, par cet acte de rupture. Il faut quitter son père et sa mère pour se marier, pour trouver son conjoint, sa
conjointe. Très christique.
Ah oui, c'est très biblique, c'est très aussi très très. C'est la Genèse, hein, c'est le texte de la Genèse. C'est vraiment le couple premier. Donc ça, c'est vraiment un point très important, et je pense que nous avons oublié ça. Et alors, pour moi, c'est comme un exemple. Il y a beaucoup de pistes sur lesquelles on peut dire que les grandes idées, les grandes intentions à l'aube de cette modernité, qui ont créé, je dirais, qui ont boosté, qui ont donné un sentiment, voilà, de confiance en soi de cette Europe des débuts de la modernité, est retombée dans plusieurs directions. On a des intentions magnifiques qui retombent, qui tournent à des résultats absolument catastrophiques. Par exemple, Dieu n'est plus dans le monde, Dieu est transcendant, il est complètement extérieur au monde, donc le monde, il est naturel, il est désenchanté, Dieu, il n'y a rien de magique dans le monde, il n'y a plus de finalité dans le monde. Le monde, c'est une grande, c'est la merveille de la création, mais c'est tout entier, on peut le comprendre, on peut le mathématiser. C'est la possibilité de Descartes, c'est la possibilité de la science. Hein, Dieu n'est plus dans le monde. Et aujourd'hui, ce désenchantement du monde, c'est aussi le désastre écologique, c'est l'écrasement du monde, finalement, le sentiment que... Et alors, donc, est-ce que ça, c'était l'intention de Calvin? Pas du tout. De la même manière, est-ce que le divorce tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, est-ce que ça, c'était l'intention de Calvin? Pas du tout. Tiens, on voit, pareil pour le politique, pareil, ou la démocratie, ou le capitalisme, bon, c'était pas les intentions. Et il me semble qu'aujourd'hui, ça serait utile de revenir sur cette espèce de petite boîte noire qui avait enregistré certaines des intentions, qui avait graver certaines des intentions fondatrices de la modernité, pour essayer de comprendre ces intentions, pas forcément pour les adopter, mais au moins pour comprendre ce qui nous arrive. Nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, parce que nous ne comprenons même pas quelles étaient les intentions au départ, et c'est la raison pour laquelle le refoulement de Calvin est très grave. Et le refoulement du refoulement fait que finalement on a perdu la clé des portes de la modernité.
Le refoulement de Calvin s'explique donc. Merci Olivier Abel d'avoir partagé cette émission au fil des pages pour le plus grand plaisir des auditeurs de Canal Académie. Merci.
Merci.